Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Virginie. Bonjour.
Bonjour.
Virginie, vous êtes présidente et enseignante au sein de l'association Esperanto Drôme Bonastello.
Oui.
Installée récemment à Die, hein, reconnue officiellement. Et puis avec vous, Philippe. Bonjour.
Bonjour.
Philippe, vous êtes donc adhérent et...
Alors moi je suis adhérent et donc élève de Virginie qui est une bonne professeure.
Et puis au cours de cette émission, Natacha nous rejoindra au studio pour nous parler donc de son expérience également au sein de cette langue espéranto. Alors on peut peut-être raconter son origine. Hein. C'est Louis-Lazare Zamenhof en 1887 qui a créé sous le pseudonyme Docteur Espéranto un langage qui permet d'être universel dans la compréhension. Et on peut peut-être continuer son histoire avant d'arriver à notre époque.
Oui, tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui a vécu son enfance dans un ghetto, je crois, où il y avait plusieurs nationalités. Et pour réunir un peu tout le monde, il a décidé de créer une langue qu'il a appelée l'espéranto. En plus, c'était une période où il y avait plein de monde qui cherchait à créer des langues. C'était un peu l'euphorie de ce côté-là dans ces années. Et puis, lui est sorti du lot. Et voilà. Et puis, la sauce a pris de ce côté-là.
Alors, ce désir de cette langue, c'est donc un enjeu universel hein, au sein des peuples du monde. Et donc, nécessité aussi de créer une langue qui puisse être perceptible par un maximum de personnes.
Oui, parce qu'en fait, donc, lui, son idée, c'était vraiment de créer un outil de paix entre les différentes communautés. Et il a commencé à 12 ans à peu près son projet. Et donc, il s'est dit à un moment qu'il ne pouvait pas créer une langue de toutes pièces. Et comme il parlait beaucoup de langues, il était entouré de dictionnaires dans sa chambre d'adolescent et il regardait les mots qui avaient une racine commune dans différentes langues. Et s'il y avait au moins 5 langues, eh bien, il se disait, voilà, c'est notre racine, c'est ce mot qu'on va utiliser. Donc, c'est pour ça que c'est une langue très transparente et qui est très facile d'approche, notamment pour nous, les Français, puisqu'il y a beaucoup de racines latines.
Cette langue, avec... de manière radicale, s'est créée. Est-ce qu'il y a justement aussi une part de l'écriture, hein, puisque utilisant des dictionnaires, il a pu déterminer un mot. Est-ce qu'il y a aussi d'autres modes d'écriture? On peut penser à l'idéogramme ou à l'écriture arabe. Est-ce qu'il y a aussi ces équivalences qui puissent être incluses dans l'espéranto ou alors c'est autre chose?
C'est autre chose. Il y a effectivement une langue, j'ai vu une langue écrite qui peut correspondre à toutes les langues. J'ai justement vu ça cet été dans un congrès d'espéranto. Ça s'appelle l'écriture, la blissa scribo, l'écriture bliss, et qui est basée sur des idéogrammes, qui est compréhensible par tous. Mais ça n'a rien à voir avec l'espéranto. L'espéranto, il y a juste quelques lettres en plus par rapport au français et d'autres en moins, puisque en fait, en espéranto, chaque son, il n'y a aucune. Comment dirais-je, d'exception. Donc, on prononce tout ce qu'on lit et on écrit tout ce qu'on dit. Quoi. Voilà.
Cette langue, comme toutes, utilise une grammaire. Elle est principalement aisée pour tous. Et comment se constitue justement cette grammaire dans l'espéranto?
Je pensais que Philippe allait nous en parler.
Disons que oui, c'est une langue très simple avec des... Moi, je ne suis pas trop professeur, donc je ne sais pas comment l'expliquer. Là, c'est un peu un piège pour moi. Mais pour un mauvais élève, c'est simple dans le sens où tous les noms finissent par O. Il y a le passé, le présent, le futur. C'est très, très facile à retenir. Il y a beaucoup de concordances, effectivement, avec le français, puisque si on revient un peu aussi sur l'histoire, la France a quand même apporté beaucoup à l'espéranto. C'est vraiment une source. La France était dans les leaders de l'espéranto dans les années 30, si je parle. Si tu me contredis. Voilà. Puisque notre club a été créé en 1912. Voilà.
Alors, voilà. Oui. Effectivement, vous parlez du club de Romans.
Oui, je parle du club de Romans. Hein.
Voilà, qui s'est mué depuis cette année en Drôme, puisque la base est à Die.
Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on a repris l'ancien club de Romans. Et puis, on est devenu le club de la Drôme, donc on rayonne sur toute la Drôme. Mais c'est vrai que le noyau central le plus vigoureux est basé à Die.
Vous parliez donc de la conjugaison, hein, trois temps existent, hein, le passé, le présent, le futur. Les verbes aussi, est-ce qu'il y a une richesse verbale de l'action dans l'espéranto?
Alors, en fait, ce qui est extraordinaire dans l'espéranto, c'est que c'est beaucoup plus précis que le français. Et quand, par exemple, si on a écrit un texte en français, même si on l'a écrit soi-même, et qu'on veut le traduire en espéranto, eh ben, on va être obligé de réfléchir on est obligé de préciser notre idée, en fait, et c'est beaucoup plus clair. Parce qu'en fait, en espéranto, il y a beaucoup plus de nuances possibles qu'en français. Par exemple, je voyais un exemple sur les couleurs. Donc à partir de... Par exemple, en français, on peut dire rougir, mais on peut aussi dire rougeoyer. On peut le faire aussi avec verdoyer, mais on ne peut pas bleuoyer ou jaunoyer. Alors qu'en espéranto, toutes les nuances vont être possibles pour tous les mots, en fait. Et c'est une langue... Enfin, selon moi, c'est la langue la plus amusante qui existe parce que on est constamment en train de créer des mots quand on pense à un concept qu'on a envie d'exprimer. On se demande, tiens, comment je vais le dire? C'est très rapide hein, dans la tête. Et hop, c'est que ça marche comme des Legos. On colle peut-être deux radicaux plus un préfixe ou un suffixe. Et on y arrive et notre interlocuteur va immédiatement comprendre ce mot qu'on vient d'inventer, en fait. Et alors après, il y a des usages qui se font... avec le temps, dans les gens qui parlent très bien, depuis la naissance par exemple, mais en quelques mois, on peut tout de suite se faire comprendre et comprendre son interlocuteur. C'est ça qui est vraiment magique.
Et il y a, donc, on peut parler de la construction d'une phrase, hein. Il y a l'article défini, le sujet, le verbe, complément d'objet direct. C'est pareil aussi, l'espéranto, ou alors il y a une autre construction?
Alors, ça, c'est pareil, mais par contre, on a une petite liberté en plus avec l'espéranto. On peut changer l'ordre des mots. Et par exemple, alors, soit pour des raisons esthétiques, en poésie, par exemple, ou en chanson, ou alors aussi bien pour mettre en valeur, si on a envie de mettre plus en valeur le verbe parce que c'est plus important dans ce qu'on pense, ou le complément d'objet direct, on peut commencer par l'élément qu'on veut en réalité.
Vous parliez de poésie. Est-ce que, justement, il existe une littérature en espéranto? Et est-ce que, par exemple, il y a un ouvrage de référence pour les adeptes de cette langue?
Alors, il y a énormément de choses, parce que le créateur lui-même était poète et a écrit des poésies en espéranto. Donc, la plus connue, c'est l'hymne de l'espéranto, qui a été mis en musique et qui est donc une chanson, un hymne à la paix entre les différentes communautés, qui s'appelle La Espero, donc l'espérance, ou l'espoir, comme on veut.
Loco flugo non so i fanta di la romantira familio alla monte eterna militanta di promessa santa l'armonio sub la santa signo dell'espero collettigia spazza e battalantoi cae rapide crescas la afero per laboro della esperantoi forte staras muroi de miliaroi inter la popoloi dividitai serpi saltos la obstinae varoi per la santa amor dispartitai Surna tra la lingua fundamento, comprenante unula alion, la popolo e faro sen consento, unu grandam rondo familiam, via diligenta collegaro, en lavoro pazza nella cigios, tis la bella sonjo del comaro por eterna ben effectivigios.
Et donc, mais y a, oui, il y a une littérature assez foisonnante et il y a des concours de nouvelles, il y a beaucoup de chanteurs. Alors, avec deux mouvements, un mouvement de création directement en espéranto et il y a aussi plein de gens alors, qui traduisent en fait ce qui leur tient le plus à cœur de leur littérature, ils ont envie de le partager. Et donc ils traduisent aussi bien des romans, des nouvelles, des chansons, des poèmes, enfin tout ce qui peut être traduit, des essais, de la littérature scientifique. Enfin, y a énormément de genres en fait, enfin tous les genres hein, sont représentés.
Virginie, quelle a été votre approche vis-à-vis de l'espéranto ? Comment s'est-elle opérée ?
Alors, pour moi, c'était un peu une surprise. C'est-à-dire que moi, j'étais au début de l'écriture d'un projet de film à l'époque, enfin de scénario. Et je voulais que ça parle d'une révolution mondiale. Et donc, je me suis dit, ah, ce serait sympa qu'ils aient un hymne. Et là, je me suis dit, mais en quelle langue ? Alors, ben, même si je parle anglais et espagnol, ça ne m'a pas paru cohérent. Et je me suis dit, ah ben l'espéranto, ça doit... Et alors, donc, mais je pensais le faire écrire par quelqu'un d'autre. Mais j'ai quand même, par curiosité, j'ai ouvert une grammaire. Et là, c'était le coup de foudre, en fait. Là, je n'ai pas pu refermer. Et puis, ça fait moins de 3 ans et ça fait déjà 1 an et demi que j'enseigne. Donc, pour vous montrer à quel point c'est rapide hein, comme acquisition... Et donc, le projet de film s'est transformé en projet théâtre qu'on est en train de... Enfin, on a déjà joué la première partie. Et l'hymne existe, mais finalement, c'est moi qui l'ai écrit. Enfin, voilà, ça se continue. Enfin, voilà, pour moi, ça s'est fait par ce hasard, en fait. Je me suis... Enfin, je sais pas, c'est comme si... Des fois, il y a des informations qui nous arrivent, on sait pas d'où, puis voilà. Et là, c'était comme un rendez-vous que je n'avais pas prévu.
Philippe, pareil, hein, cette question, comment êtes-vous arrivé à l'espéranto ou comment est-il venu à vous ?
Alors moi, bon, l'espéranto, j'en entends parler depuis ma plus tendre enfance, hein, par mon père, voilà, qui parlait de... Bon, il parlait pas du tout espéranto, mais qui m'a toujours dit qu'il y avait une langue quelque part qui traînait et qui unirait un peu les peuples, que s'il y avait cette langue-là à travers le monde, bah, tout le monde se parlerait et que ça serait bien sympathique. Mais bon, dans les années 70-80, ça s'est un peu perdu, l'espéranto. Et puis là, coup de chance, j'étais en train de regarder un journal, le journal du Divois, et qu'est-ce que je vois ? Virginie qui avait mis un rendez-vous espéranto. Je dis, bah, allez, j'y vais, parce que par curiosité. Et puis, bah, j'ai pas lâché l'affaire, ça fait 1 an et demi. Et voilà comment je suis arrivé à l'espéranto, parce que c'est quelque chose qui est, en fin de compte, ancré dans notre, quelque part, dans nos gènes en France. Il suffit d'écouter les anciens.
Vous parliez de cette création, donc fin du 19e siècle, hein, de cette langue. Mmh. Elle a été mise à mal lors des conflits hein, mondiaux. Et puis, il y a aussi l'avènement de la langue anglaise qui a peut-être mis un gros frein sur ce développement de l'espéranto.
Alors, ce n'est pas l'avènement, mais effectivement, il y a eu une réunion entre les États-Unis et l'Angleterre dans les années 60 où ils ont décidé de conquérir le monde au niveau linguistique. Et moi, c'est tout un domaine, en fait, que j'ignorais complètement. C'est-à-dire que je ne m'étais pas rendu compte, par naïveté sans doute, qu'il y avait une politique coloniale linguistique dans le monde entier, et donc avec des tensions énormes. Et c'est pour ça que l'espéranto, pour l'instant, ne s'est pas encore... même s'il y a eu des moments où il a pris beaucoup d'espace, mais il n'a pas pris encore, je pense, l'espace qu'il mérite, parce que... il y a des intérêts financiers et culturels, d'hégémonie culturelle, en fait, derrière d'autres langues. Et ce n'est pas le cas de l'espéranto. Donc, puisque l'espéranto, c'est une langue du peuple, en fait. Et d'ailleurs, ça a failli être la langue de la Société des Nations en 1921. L'Inde était d'accord, la Chine était d'accord, l'Allemagne aussi. Et la France a refusé au motif que... si c'était l'espéranto, tout le monde pourrait le parler, et non pas seulement les intellectuels, comme c'était le cas à l'époque avec le latin et le français. Et donc, on ne pourrait plus autant faire ce qu'on voulait des peuples. Enfin, voilà, donc c'est dommage, mais pour l'instant, c'est comme ça. Mais voilà, moi, je ne perds pas espoir, parce que c'est tellement plus logique que ça devienne vraiment la langue internationale, que j'y crois toujours. Voilà.
Cette langue, pratiquement 150 ans, elle est jeune. Est-ce que vous lui voyez un avenir pour se développer?
Alors, moi, je le vois plus un avenir pour les jeunes. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un autre moyen. Alors, moi, je le vois plus dans le voyage. Je suis né dans le voyage. J'ai eu la chance dans mon enfance de beaucoup voyager. Donc, j'ai un peu ça dans les veines. Et aujourd'hui, je me dis que c'est une langue qui peut permettre de voyager autrement, plutôt que de prendre l'avion, d'aller dans un hôtel et dire « j'ai vu tel pays, j'ai vu tel pays ». Bien non, là, on va s'inscrire sur une plateforme et on va aller chez l'habitant. Et là, on va être vraiment dans le pays. Et là, l'autochtone va réellement nous faire découvrir ce pays. Je le vois plus comme ça, plutôt qu'une langue aujourd'hui une autre langue. Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les jeunes, leur faire vivre dans un monde où on est en plein tourisme de masse. Et ben, il y a un autre moyen de voyager qui est plus naturel, plus mieux, quoi. Enfin, c'est mon avis.
Voilà, Natacha nous a rejoint. Natacha, bonjour.
Bonjour.
Natacha, tu es aussi au sein de cette association, donc Esperanto Drôme Bonastelo, et tu es élève également de ces cours que diffuse Virginie. Pour toi, l'attrait de l'espéranto date de quand?
Alors moi, j'ai découvert, la première fois que j'ai découvert l'espéranto, j'étais adolescente, enfin, je ne me souviens pas exactement, mais... En tout cas, j'étais déjà très intéressée par les langues. Je parlais déjà bien anglais, bien espagnol. Et puis, on m'a parlé de cette langue et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant de par son universalité et sa facilité d'apprentissage. Et par contre, j'ai un gros blanc. Sur ce qui fait que je m'y étais intéressée, mais après, je n'ai pas la suite. Et donc, j'ai réentendu parler de ça par Virginie. Et moi, à ce moment-là, j'étais en train d'apprendre l'italien, donc je n'étais pas très, très partante pour... J'ai vu que c'était compliqué, j'ai essayé, mais c'était compliqué d'apprendre deux langues en même temps. Donc, j'ai laisser un peu de côté l'espéranto dans un premier temps. Puis finalement, ça revenait, parce que c'est vrai que c'est très facile. Et puis l'intérêt du voyage, d'une langue qui effectivement peut être apprise de tous, parlée par tous, et qui permet de voyager partout, et en même temps qui est facile. Du coup, j'ai laissé tomber l'italien. Pour l'espéranto, finalement.
Tu justement, là, Natacha, tu as abordé cet intérêt pour l'espéranto lors de ton jeune âge, un peu comme ce que disait Philippe aussi, c'est peut-être également d'intéresser les jeunes à cette langue, l'espéranto. Est-ce que Esperantodrome Bonastelo se missionne aussi pour aller vers la jeunesse, pour leur faire découvrir cette langue?
Alors, on est tout à fait ouvert aux jeunes. Les cours sont à partir de 8 ans. En fait, il y a un élément qui n'est pas encore très connu du public et des instituteurs, malheureusement. Il y a un programme européen qui, c'est des cours que n'importe quel institut peut demander, qui sont gratuits, qui ont été faits par l'Europe à destination donc des instituteurs du CE2 au CM2, parce que l'espéranto a été reconnu comme accélérateur de l'apprentissage des autres langues. Et c'est vrai que comme il est très logique et que la grammaire est apparente, ça peut même permettre à un élève, par exemple, qui aura des difficultés dans sa propre langue, de mieux comprendre la grammaire et donc aussi, bien sûr, d'apprendre beaucoup plus facilement n'importe quelle autre langue. Après, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites dans ce sens. Et alors, en tout cas, moi, je suis tout à fait disposée à accompagner tous les instituteurs qui le souhaitent avec ce programme, puisque c'est un programme qui...
Erasmus+.
Voilà, oui. Qui est fait pour qu'une personne qui ne parle même pas encore cette langue puisse l'enseigner à ses élèves. Mais comme ça peut être effectivement un petit peu effrayant, je peux tout à fait aider sans aucun problème. Et aussi recevoir des jeunes élèves, ou des collégiens, des lycéens, puisqu'il y a beaucoup de programmes d'échange de jeunes, enfin voilà... Enfin, on est ouvert aux jeunes, bien entendu. Ouais.
D'ailleurs, certaines universités européennes proposent justement dans leur programme cet enseignement de l'espéranto. Et puis, il y a aussi à travers le monde, d'autres pays. On peut parler du Brésil, la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie sont les principaux exemples. Mais est-ce que...
La Chine aussi.
La Chine, alors, justement, la Chine... C'était la jonction que j'essayais de tenter de trouver par rapport à la racine, ou plutôt à l'écriture même d'une langue. L'écriture romane s'inspire beaucoup l'espéranto. Sur quelle base, au niveau de la Chine, puisse s'établir aussi ce partage de cette langue ?
La grammaire agglutinante, en fait, la grammaire et la pour un chinois, la grammaire agglutinante est logique. Donc ça c'est la même chose qu'en espéranto. Donc pour eux, c'est de ce point de vue-là, c'est très simple. Après, effectivement, ils ont plus de travail pour apprendre les racines des mots qui sont parce que le latin leur est moins familier, mais comme le chinois ne peut pas devenir une langue...
Parce que c'est beaucoup d'années d'apprentissage pour le chinois. Pour eux, ça leur permet d'aller, justement, une ouverture vers les autres.
Et de commercer. Ils commercent même entre eux d'un comté à l'autre. Ils commercent entre eux d'un comté à l'autre en espéranto, parce qu'ils ont pas mal de langues aussi, un peu différentes, beaucoup de dialectes.
Oui, je crois qu'il y a plus de 50 dialectes en Chine.
Et pour eux, c'est très pratique.
Et puis donc, il y a cette proposition faite au sein de l'ESCDD, que vous avez déjà opéré les années précédentes. Il y a la nouvelle année et puis le forum, vous serez présent.
Oui, bien sûr, oui, on sera présent sur le forum des associations et on recommence les cours cette année, donc pour la deuxième année, à l'espace social. Donc il y a deux niveaux, niveau débutant et puis un niveau plus avancé maintenant pour les élèves qui ont déjà commencé.
Et vous prévoyez, vous avez actuellement combien d'élèves au sein de vos ateliers ?
Oui, on est...
Actuellement, on est une dizaine.
Voilà, une dizaine, oui.
Alors, on peut pas trop. Si vous voulez vous inscrire, faut le faire parce que il y aura pas trop de place non plus parce que Virginie, elle est pas extensible. Bien, c'est bien dommage.
Ces ateliers demandent beaucoup.
Il y a de la marche.
On demande beaucoup de temps pour enseigner aux personnes qui n'ont jamais parlé, par exemple. Est-ce qu'il y a un temps de compréhension déjà à acquérir?
Non, ça va très vite. Il y a plein de supports, il y a des dessins animés, tout ça. Moi, j'avais appris beaucoup par Internet, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont possibles sur Internet. Voilà, bah, un club, c'est plus chaleureux.
Bah, nous, on a un support. On travaille avec un livre de cours. Et puis, comme c'est très ressemblant, enfin, il y a beaucoup de, comme tu disais, hein, c'est une langue, enfin, il y a beaucoup de racines romanes, pas que, hein, mais du coup, c'est déjà d'emblée satisfaisant parce qu'il y a des mots, on les reconnaît tout de suite. Et du coup, il y a une sensation de facilité à l'apprentissage qui fait que, ah bah chouette, c'est facile, quoi. Et donc, ça va assez vite.
Voilà, racines romanes ou saxonnes, hein, également.
Ouais. Et d'autres aussi.
Et d'autres ?
Oui. 27 langues, hein, en tout, quand même. Il a D'accord. à partir de 27 langues, oui.
Cette langue, vous la mettez en pratique lors de vos voyages, j'imagine ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont vraiment disposés à s'exprimer avec vous ? Enfin, est-ce que les habitants, il y a des pays où l'espéranto a vraiment une grande place ?
Alors, on peut pas vraiment dire ça, mais par contre, on peut aller. Il y a un annuaire international d'espérantistes qui sont prêts à recevoir d'autres espérantistes. Donc, en fait, on peut rencontrer des gens dans le monde entier grâce à l'espéranto. Par exemple, bah là, l'Autriche vient de reconnaître l'espéranto comme
patrimoine de mondial
de l'humanité, voilà. Donc le congrès universel qui a lieu chaque année était en Autriche cette année. Et ben voilà, ben moi,
en fait, il y a énormément de rencontres annuelles espérantistes dans différents pays qu'on peut trouver sur un annuaire des événements. Eventa Cervo, qui parle de et donc au sein de tous ces événements, il y a la communauté espérantiste se retrouve. Enfin, une partie, hein, puisque les événements sont plus ou moins grands. Là, le congrès universel, c'est le plus gros événement. Donc là, il y avait plus de 1000 personnes, largement plus de 1000 personnes. Et après, il y a des événements plus petits. Et il y a également un annuaire où on retrouve tous les espérantistes qui veulent bien accueillir d'autres espérantistes. Et donc, à l'échelle de tous les pays où se parle cette langue. Et il y en a, je crois, 125. Donc, c'est
voilà. Il y a des jeunes, justement, qui l'ont appris, par exemple, au lycée et qui font des voyages. Alors, soit à plusieurs, et puis ils vont dans différents pays, mais ils sont toujours reçus par des espérantistes. Et il y a un jeune aussi qui a fait un film récemment. C'est pareil, après son bac, lui, il est parti tout seul, à vélo, et il a fait une espèce de tour d'Europe chez des espérantistes, puisque c'est... c'est très facile d'aller en Europe ou ailleurs dans le monde. On est invité, puisque dans ces rencontres, on crée des amitiés. Donc on est invité un peu partout.
Il existe donc une ramification hein, de cette langue au travers de tous les pays. Il existe donc un annuaire, comme vous dites, qui permet de trouver les correspondants possibles. Je reviens un peu aussi sur cette notion de facilité d'écriture, de compréhension. Est-ce que le genre est de prise aussi ? Est-ce qu'il y a le masculin, le féminin dans l'espéranto ou c'est une langue qui s'en passe ?
Alors oui, il y a le masculin et le féminin. Et justement, il y a un mouvement maintenant. Alors donc, il y a une
académie.
Voilà, il y a une académie d'espéranto. Alors, je vais dire, comme à peu près peut-être toutes les académies dans le monde, il y a quand même beaucoup d'hommes dans cette académie, plus que de femmes. Et c'est une langue qui a été créée à la fin du 19e siècle, donc il y a un suffixe pour mettre un mot au féminin. Et là, il y a tout un mouvement qui n'est pas encore dans l'académie pour que le radical de tous les mots soit neutre. Et qui a un suffixe pour le masculin comme pour le féminin, pour que ce soit vraiment une langue quelque part moderne, complètement égalitaire. Et j'avoue que je trouve ça très bien.
Justement, est-ce qu'on peut estimer le nombre de mots dans le vocabulaire espéranto qui seraient usités ?
Alors, il y en a qui l'estiment, mais moi, je n'ai pas du tout le chiffre en tête.
Ouais, moi non plus, j'avoue que là, ce n'est pas des études que j'ai menées là-dessus.
Ce que je sais, c'est que y a aussi plusieurs mouvements. Il y a des mouvements dans l'espéranto. Et en fait, comme on peut créer des nouveaux mots à partir d'une racine, donc les Européens ont tendance à créer pas mal de nouveaux mots. Et les Asiatiques, justement, ou Africains, réclament qu'on en crée moins parce que, par exemple, l'exemple du mot divorce. Donc, le mot divorzo est rentré dans la langue il y a quelques années. Mais les Asiatiques préféraient qu'on dise des mariages, disetzicho, parce que pour eux, ça leur fait qu'un mot à apprendre, en fait, qu'ils connaissent déjà, bien entendu. Parce que, et donc, ce serait pour eux plus simple qu'on ait moins de radicaux. Et c'était l'idée à la base, qu'il y ait peu de radicaux et qu'on fasse avec des préfixes, suffixes, des compositions. Pour que ce soit plus simple à apprendre, en fait, partout dans le monde.
Oui, plus égalitaire, du coup, puisque ça, c'est encore un mot d'une racine, parce qu'effectivement, quand même, il y a une racine latine. Et donc, pour les pays asiatiques, voilà.
Philippe, tu veux rajouter ?
Et encore plus simple à apprendre. Et encore plus simple à apprendre, puisqu'il y aura encore moins de mots. Donc, moi, je suis pour.
Justement, lors de ces ateliers proposés par votre association, est-ce que vous avez établi une méthodologie dans le temps pour justement acquérir cette langue à l'adresse des jeunes, par exemple ?
Alors, une méthodologie, non. Nous, on suit... j'ai appris, donc justement, il y a eu un croate, qui était vraiment passionné, qui tombait dessus tout enfant et qui sur une grammaire comme ça, enfin sur une méthode. Et après, il est devenu linguiste et il a fait ses études sur les mots les plus utilisés en espéranto dans les conversations courantes. Et à partir de là, il a collaboré avec une autre femme pour créer une méthode qui part de ces mots qu'on utilise tous les jours. Et donc, c'est la méthode qu'on utilise nous au club, en fait. Ouais. Donc, qui permet de très, très vite parler avec des gens de choses simples. Et la méthode qui est promue par l'Europe a été créée par sa fille. Et donc, sur la même méthode, mais pour les enfants. Enfin, voilà. Donc, c'est une base très simple. Et nous, enfin, moi, j'ai envie de... Comme c'est ludique, j'ai envie de, petit à petit, mais de développer l'apprentissage par des jeux, en fait. Parce que je pense que c'est la langue qui se prête à cette manière d'apprendre. Mais voilà, ce sera petit à petit, ça. Parce que, voilà.
Et d'ailleurs...
Oui, excuse-moi. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait un peu, là, puisqu'on essaie de se réunir, en plus des cours, notamment au Pestel, où on sort des jeux. Et c'est marrant parce que les gens viennent voir par curiosité et trouvent que l'espéranto est facile. Donc, ça nous permet d'accrocher un peu les gens, quoi.
Ouais, on a des espaces où on fait des genres d'apéritifs en espéranto pour se retrouver aussi, en utilisant différents supports et pour aussi parler, en fait. Ça permet on décide de parler espéranto pendant une heure en buvant un coup.
Alors, comment dit-on « tuc » en espéranto ?
Tuco.
Vos rendez-vous hebdomadaires au sein de l'ESCD sont quel jour ?
Alors, c'est le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les débutants et après l'heure suivante pour les plus expérimentés et voilà, ils arrivent à 18h30, mais alors des fois, il y a un petit temps pour se retrouver entre débutants et plus expérimentés. Enfin, voilà, ça ne commence pas pile à l'heure pour qu'il y ait un...
Mais ça déborde un peu.
Voilà. on fait aussi des apéros, des repas quand on a des visites d'espérantistes qui viennent d'ailleurs. On profite toujours pour faire un petit moment sympa.
Il y a aussi les concerts, on a oublié de parler. Virginie, parce qu'il y a des concerts aussi où on se retrouve... Donc, il y a des concerts où on se retrouve. On a notre chanteuse, notre chanteur. On a un chanteur marseillais qui vient régulièrement.
Et vous dispensez ces concerts quand ? Vous les, les annoncez
peut-être
parfois ?
Virginie, peut-être parler de ça peut-être
alors on en a fait quelques-uns avec Cricro de Marseille. Donc, c'est un duo pour l'instant. Enfin, on a déjà fait à trois. Mmh. Avec trois donc, une espérantiste d'ici... qui nous a bien épaulés. Donc, on avait été jouer. on joue dans différentes villes. Enfin, ici, on n'a fait que deux concerts, mais on en a fait en Italie, en Espagne,
en Bretagne.
Et puis en Bretagne, dans le Maine-et-Loire, dans le château des espérantistes à Grésillon. Voilà, on en fait quelques-uns. C'est des concerts, c'est en espéranto, mais c'est sous-titré en français pour que qu'on puisse suivre les textes. Voilà.
Il existe des colloques hein, pour vous retrouver hein, à travers la planète. Il y en existe certainement en France. Il y en a eu cet été en Autriche, je crois, aussi. Est-ce qu'il y a un calendrier de ces rendez-vous qui est établi?
Oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça s'appelle Eventa Cerveau. Et donc là, par pays, on peut voir les petits drapeaux et on voit les dates. De telle date à telle date se déroule tel événement. Ce qui est concerné, s'il y a un thème, si c'est plutôt pour les jeunes, voilà.
Il y a un site internet, justement, pour les
voilà,
connaître.
Voilà, c'est ça, c'est Eventa Cerveau.
Voilà, il suffit de taper
ce
mot.
Ça s'appelle, comme ça s'écrit à peu près comme ça se prononce, mais en deux mots, hein, Eventa, plus loin, cerveau, voilà. S-E-R-V-O.
Oui, le service des événements. Par contre, c'est écrit seulement en espéranto. Donc, pour quelqu'un qui ne parlerait pas encore espéranto, il vaut mieux aller sur le site d'Espéranto France, par exemple. Ou,
sinon, tu peux faire une traduction. Voilà. Hein, moi, j'avais
demandé
une traduction aussi.
Ou parce que, par exemple, Google propose des traductions.
Tout
est-ce
à fait.
Que Google est apte pour ça d'accord.
Ouais. L'espéranto fait partie.
Même sur votre portable, vous pouvez avoir le clavier en espéranto.
Oui, je revenais donc à ces organisations internationales. Il y a un grand élan commun, mais au sein de celui-ci, est-ce qu'il y a, il existe comme partout d'ailleurs, des divergences et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est le sujet, peut-être, d'une confrontation interne?
Alors, comme dans tous les mouvements, il y a des discordances, mais je sais que au travers de l'histoire, donc à un moment, il y avait l'UEA, c'est l'Union espérantiste associative donc mondiale, qui est la première, qui a été créée en 1909 par un Hongrois, je crois bien, et après, au sortir de la Première Guerre mondiale, malheureusement, des gens qui se connaissaient, des espérantistes, avaient été appelés sous les drapeaux. Et donc, il y a eu beaucoup d'espérantistes, notamment parmi le nombre de morts et de victimes. Et donc, les gens se sont dit, mais ces nations, c'est vraiment un concept qu'il faut éviter, parce que c'est ça qui a fait que les nationalismes ont augmenté et qu'on s'est tous battus. Donc, il y a eu un mouvement anational, en fait, d'espéranto, qui a aussi réuni les ouvriers, les anarchistes, etc. Donc c'était un mouvement qui voulait vraiment lutter contre les dominations, les nations, etc. par l'espéranto. Et puis finalement ça s'est un petit peu remélangé tout ça parce que ça voilà, donc maintenant c'est à nouveau le mouvement neutre qui est le plus représenté. Mais c'est vrai que ça pose des questions, puisque c'est surtout quand il y a des guerres, etc., qu'on s'aperçoit que c'est peut-être les moins nombreux avaient raison sur un certain point et les autres ne s'apercevaient pas forcément. Enfin, mais c'est pas que pour les espérantistes, c'est pour tout le monde.
Oui, Philippe, vous êtes très documenté aussi sur l'espéranto. Quelles sont, selon vous, peut-être les valeurs de l'espéranto?
C'est la paix, déjà. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est la paix. C'est même la principale.
D'accord. c'est évidemment la paix. C'est le dialogue entre les cultures. C'est vraiment aussi la rencontre de l'autre au travers la même langue. Une même langue, attention, parce que c'est vrai que c'est important. Et ce n'est pas du tout l'idée. Enfin, oui, ce que disait Virginie, l'idée n'est pas non plus d'effacer les cultures, mais c'est bien d'avoir une autre langue qui nous permet de pouvoir partager, quoi. Il y a sans doute, mais c'est vraiment un humanisme, hein. Enfin voilà, c'est porté par des valeurs humanistes.
En tout cas, moi, ce qui me touche beaucoup dans l'espéranto, c'est vraiment cette intimité qu'on a tout de suite avec des gens d'une culture complètement différente, et que finalement, je n'ai jamais touché ça du doigt, ni avec l'anglais, ni avec l'espagnol. Alors, c'est un mystère, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on est plus proche. C'était le but aussi du créateur, mais je pense qu'il a vraiment réussi. Ah oui, et je voulais peut-être, pour finir, simplement dire que donc, j'ai vu une comparaison qui parlait des mathématiques. Donc, il y a eu un mathématicien qui est parti à un moment dans les pays arabes et qui a découvert les chiffres arabes. Et il s'est dit, mais c'est extraordinaire, il faut absolument que je ramène ces chiffres arabes, c'est beaucoup plus intéressant que les chiffres romains. Donc c'est ce qu'il a fait, mais ça a pris quand même plusieurs siècles avant que les gens passent tous aux chiffres arabes, même si c'était mieux. Et quelque part, j'ai le sentiment que c'est la même chose avec l'espéranto, ou peut-être même un espéranto encore amélioré, bien sûr, mais...
De toute façon, c'est vivant, l'espéranto est une langue vivante. C'est important de le rappeler.
Et justement, au niveau mondial, international, existe-t-il des statistiques qui puissent établir le nombre de pratiquants globalement, hein?
C'est assez vague. Il n'y a pas vraiment quelque chose de sérieux. Mais moi, dans les chiffres que je vois à chaque fois, c'est entre 2 et 10 millions de personnes qui parlent espéranto dans le monde. Bon.
Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de ce sujet, donc de l'espéranto et puis de cette association l'Espéranto-Drôme Bonastello, donc qui proposera pour cette rentrée à l'ESCDD des ateliers à destination des débutants. Et puis, il y aura cette présence au forum des associations également.
Oui, merci beaucoup. Merci.
Eh bien, merci beaucoup Virginie,
merci Erdiwa,
Natacha et Philippe d'être venus sur Erdiwa pour ce sujet. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Oui, à bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Slaviv, foutja slaviv, passa slatemp et nous a motiv, ruja palti, grisa palti, tu passe ni pril révolutsi, ruja palti, grisa palti, tu passe ni pril révolutsi. Mordas labor, pagas labor, tempa cetat en super bazar, pagita tem ne venos plu, mordas unets plora enu, pagita tem ne venos plu, mordas unets plora enu. Estis nur am en la ocul, nun por object, ci estas regul, mondo sen rev, sen realez, jen bildoi nun nia opres. Mondo sen rev, sen realez, jen bildoi nun nia opres. Mal satant, kai vi pafit, venas al mi el fundo de lint. Iam ne changic, sed ecasort, icios matura tu perfort. Iam ne changic, sed ecasort. sed e cas sort I just ma tu la tu per fort Eg brulud nest, doi de pregist, dom de vendist, de policist, se stormon zemis iu vent, floros la tag, cum festa sent. Se stormon zemis iu vent, floros la tag, cum festa sent. Fusiloi kiu ceras nin Kontrola chef tui turnos sin Ne plu da estr, ne plu da stat Por profiti de ci batal Ne plu da estr, ne plu da stat Por profiti de ci batal